auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui lundi 17 mars, la sixième d'I Love Mes Cheveux, une nouvelle émission diffusée deux ou trois lundis par mois, de 10h à 11h en direct et évidemment en podcast. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Saint-Gall et à mes côtés, mon invité aujourd'hui, Lucille Arnoux-Farnoux. Lucille, bonjour. Alors comme Lucille est une collègue et comme on se connaît depuis un certain temps, on va se tutoyer au cours de cette émission, on ne va pas faire semblant d'eux. Je clôt cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié, ILMC 2025, qu'on peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, et qu'on peut même commenter en direct sous la dernière publication, celle avec le nom de l'invité. Posez vos questions, on essaiera de garder un œil sur l'Insta. Et je termine aussi en disant qu'aujourd'hui, 17 mars, on est la Saint-Patrick et que, comme effectivement je ne souhaite pas particulièrement coller à l'actualité, on ne va pas parler de littérature irlandaise et encore moins en gaélique. J'en profite, c'est la Saint-Patrick, pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire à quelqu'un qui ne nous écoute pas, il doit encore dormir à l'heure qu'il est aux États-Unis. C'est les 55 ans aujourd'hui de l'écrivain camerounais Patrice Nganang, à qui on souhaite un très bon anniversaire, quelqu'un qui écrit dans de très nombreuses langues aussi. Et on commence, comme d'habitude, par la rubrique « Le mot du jour ». Et le mot du jour, comme vous le savez, c'est une rubrique dans laquelle on parle d'un mot difficile à traduire ou qui n'a pas d'équivalent évident dans la plupart des autres langues. Histoire de boucler avec le sujet du jour, je vais demander à notre invité, alors je vais quand même la présenter brièvement, mais de s'expliquer en fait sur un choix que j'ai pu voir dans une de ses préfaces. Alors, Lucille Arnoux-Farnoux, pour la présenter, universitaire, rattachée au département de littérature comparée à la faculté lettres et langues ici à l'université de Tours, est aussi traductrice d'un certain nombre de textes. Je ne sais pas si tu peux donner le nombre de titres que tu as traduits ou publiés, mais moi j'avoue que je n'ai pas fait le compte, mais enfin un certain nombre on va dire. Traduit du grec moderne, et c'est à ce titre-là que je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Alors, ce que j'avais noté, et il faut juste que je retrouve la citation, c'est à la fin de la préface d'un livre que vraiment je recommande très vivement, et on mettra toute la bibliographie sur la page web de l'émission, « Mon île » de Melpo Axioti, je ne sais pas si je prononce ça correctement, ça a l'air d'aller à peu près. Et donc dans la dernière phrase de cette préface, aux éditions Cambourakis, tu dis ceci, je cite, « Mon île est en effet à la fois l'œuvre qui dit le désir du retour, ce fameux nostos fondateur de la littérature grecque depuis Homère, et celle qui célèbre le bonheur de l'écriture et de la création enfin retrouvée. » Alors en lisant ça, je me suis dit que nostos, est-ce que c'était un mot que tu avais maintenu en grec? Parce qu'il n'a pas de traduction facile en français.
Oui, alors effectivement, on peut le traduire. Hein, nostos, donc le sens propre, c'est le retour, mais c'est un retour particulier, c'est le retour dans la patrie. Le retour dans la patrie qu'on a quitté depuis longtemps et où on peut enfin revenir. Mais c'est aussi le désir du retour dans la patrie, l'attente du retour dans la patrie, dans le pays natal. Alors, pourquoi l'avoir gardé et ne pas avoir utilisé la périphrase? Parce que c'est un mot qui a une très très longue histoire en grec. C'est un mot qui est chargé donc d'histoire, puisque c'est un mot qu'utilise Homère déjà, et évidemment à propos d'Ulysse, j'allais dire d'Odysseus, qui est le nom en grec. Ulysse, et le mot apparaît dès les premiers vers de l'Odyssée, est en proie à ce désir du retour dans sa patrie, dans Ithaque. Il attend ce retour, il travaille à ce retour. Voilà. Et depuis Homère, donc, ce mot s'est conservé dans la langue grecque qui est la seule langue européenne à avoir cette histoire continue depuis Homère jusqu'à nos jours. Une histoire très très longue. Et en fait, énormément de termes ont été conservés tels quels.
Voilà. Donc c'est le mot qui donne le mot nostalgie.
Alors, c'est le mot, effectivement.
Alors, c'est la radicale.
Puisque la nostalgie, c'est le...
La douleur du retour.
Algos tou nostou, en grec, c'est-à-dire la douleur qui vient, la douleur psychique, psychologique, qui est liée à l'aspiration, au retour dans la patrie, au désir de retourner dans son pays natal. Et donc c'est un mot que nous connaissons finalement aussi en français, au moins dans ce terme composé. Et donc il y a une tonalité très particulière en grec et qui est d'ailleurs utilisée lorsqu'on parle donc de l'Odyssée, d'Ulysse. On parle aussi en français, les spécialistes ont adopté ce terme en français. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé ce terme.
Et là, c'est dans la préface, mais est-ce que, par exemple, dans la traduction au sein d'un texte, au sein d'un roman, tu ne le gardes pas, du coup ? Enfin, où ça dépend s'il est vraiment chargé culturellement ou pas ?
Non, effectivement, après, dans la traduction, on peut...
Petit, il faut parler un peu plus près du micro, peut-être, c'est ça ? Ouais. Ok, ça va marcher mieux.
Voilà, c'est le réglage. Dans la traduction, s'il se trouvait, éventuellement, bon, le cas ne s'est pas présenté, mais soit je le traduirais, soit je le gloserais. J'ai eu le cas, je dois dire, dans un petit échantillon de traduction que j'ai fait récemment. Il s'agissait d'un livre, d'un roman, une forme de roman policier, mais sur la question du trafic d'antiquités, du pillage de tombes et du trafic d'antiquités. Et dans le titre, il y avait le mot en grec nostos, hein, c'était l'opération nostos, donc l'opération retour, hein, puisqu'il s'agit de retrouver des antiquités qui sont parties à l'étranger, qui ont été vendues illégalement à l'étranger, et il s'agit de les rapatrier. Et donc, dans le titre provisoire que j'ai donné, j'ai écrit « Opération retour ». Mais c'est encore un cas de l'utilisation en grec de ce mot « nostos ».
Parce qu'en plus, ça, je ne sais pas dans le cas de la Grèce, mais c'est vrai que ça, c'est ma petite fibre postcoloniale et africaniste qui parle. Mais c'est vrai que moi, j'entends aussi la question de la restitution quand on parle des objets, les antiquités, les pillages. Donc, c'est vrai que visiblement, de par ce que tu dis, si j'ai bien compris, Nostos inclut un peu tout ça, rapatriement, restitution,
dans ce contexte-là. Là, c'était une utilisation particulière donc du mot Nostos, avec toute cette charge affective qu'il a, par le romancier, pour donc exprimer cette forme particulière du désir du retour, qui est le désir du retour d'objets... lors de fouilles illégales, de fouilles clandestines, et ensuite acheminées à l'étranger, vendues, y compris dans des grands musées. Voilà. Donc, c'était la preuve de l'importance de ce mot nostos, des connotations très, très importantes de ce mot nostos, et effectivement du problème de la traduction. Parce que dans un texte littéraire, il faut faire des choix.
Très bien, eh bien, on va faire plus ample connaissance avec quelques questions que je pose à peu près à tous et toutes mes invités, histoire d'avoir une sorte de portrait un peu en plusieurs étapes. Donc, une question que je pose à toutes mes invités, c'est combien de langues parles-tu ? Alors, au moins un peu, donc je pense que tu vas me répondre que le français et le grec moderne n'ont quasiment pas de secret pour toi, mais à part le français et le grec moderne.
Alors, c'est une question délicate. Alors, bon, bien sûr,
parle, lire,
je dirais,
plus ou moins bien.
Comme tout le monde, je parle plus ou moins anglais, mais j'avoue que mon anglais n'est pas bon du tout. Après, j'ai la longue liste des langues que j'ai apprises ou tenté d'apprendre. Alors, par exemple, j'ai longtemps étudié l'allemand dans mon parcours scolaire au lycée. Et j'avoue qu'après des années et des années d'études de l'allemand, j'avais poussé assez loin, j'ai complètement oublié cette langue. Et lorsque je suis en Allemagne, je suis incapable d'articuler plus de trois mots d'affilée. J'ai aussi...
Mais par exemple, l'allemand, tu peux le lire, par contre.
Je peux le lire difficilement. Mais enfin, disons que je connais les règles de construction de la phrase.
Tu peux te débrouiller à lire un texte que tu aurais vraiment besoin de lire. En revanche, si on clash dans une ville allemande... avec que des germanophones monolingues, c'est plus compliqué déjà.
C'est plus compliqué. Il faudrait vraiment du temps pour m'y retrouver. Mais effectivement, de toute façon, en tant que comparatiste, j'essaie de travailler toujours sur des œuvres, par exemple,
donc,
avec des étudiants.
Donc, tu peux lire le...
Au moins, vérifier dans le texte original, comparer le texte original avec une traduction, etc. Donc, c'est ce que je peux faire, effectivement, pour l'allemand.
On peut peut-être expliquer.
Pour l'italien aussi, je m'étais beaucoup intéressée à l'italien. Mais l'italien, j'avoue, a été recouvert par le grec. Une fois que je me suis investie dans l'apprentissage du grec moderne, l'italien, curieusement, a été recouvert, a régressé.
C'est une revanche sur l'histoire. si on en revient, non, si on parle de la Rome antique.
Victoire du grec sur l'italien.
Alors on peut peut-être préciser, parce que tu disais en tant que comparatiste, pour nos auditeurs auditrices qui ne le sauraient pas, mais la littérature comparée, c'est une discipline qui consiste à comparer des textes traduits de langues différentes. Il peut y avoir des textes français.
Il y a une différence entre ce qu'on fait dans les cours, dans l'enseignement, et ce qu'on fait dans la recherche. Hein. Donc, en littérature comparée, effectivement, on travaille sur des corpus issus de plusieurs aires linguistiques, pour dire les choses très, très rapidement. Alors, quand on fait de la recherche, on travaille sur l'original de ces textes. Pour l'enseignement, pour des raisons pratiques, parce que les étudiants ne connaissent pas tous les mêmes langues étrangères, on travaille sur des traductions. Mais donc j'essaie d'avoir toujours de travailler sur des textes pour lesquels je peux avoir un contact direct avec l'original, donc l'italien. Et puis je m'étais aussi beaucoup intéressée au portugais à un moment. J'adore la littérature portugaise, du moins certains auteurs. Et voilà, et j'avais beaucoup travaillé sur le portugais. J'avais espéré pouvoir vraiment lire, pratiquer le portugais. Là aussi, ça a été un peu plus compliqué que je ne pensais. Enfin, voilà les langues auxquelles je me suis.
Je me trompe si je dis, c'est une remarque de Béotien, qu'entre les littératures portugaises du XXe siècle et contemporaines et les littératures grecques, que je connais moins, il y a vraiment des échos, il y a des...
Oui, tout à fait. Je trouvais des échos, des parallèles qui m'intéressaient beaucoup. D'un côté, bon, c'était l'extrême ouest, de l'autre, l'extrême est de l'Europe. Mais il y avait effectivement des points de contact entre ces deux littératures, des problématiques communes qui m'intéressaient. C'est à ce titre-là que je... Aussi, mais je vais vous dire qu'en plus, j'adore le portugais. Enfin,
moi aussi, en fait.
Du portugais, ça, je suis absolument fascinée par les diphtongues du portugais. Voilà, c'est une langue absolument magnifique. Et puis, il y a des auteurs très, très intéressants au XXe siècle.
Tu prêcheras un convaincu sur la question, mais c'est pareil, je ne l'ai jamais vraiment appris. Donc, je reste très à l'extérieur et très en marge. Alors, une autre question que je pose, c'est la question de l'anecdote significative sur des situations de plurilinguisme. Je pense que tu voulais éventuellement parler d'un fait de traduction qui impliquait plusieurs langues ou plusieurs niveaux de langue dans Le Plongeur de Minos Efstathiadis.
Oui, donc dans un des romans que j'ai traduit, donc de cet auteur contemporain qui écrit des romans noirs. Et qui lui-même est dans une situation de plurilinguisme, puisque donc il est grec, mais il a fait ses études supérieures de droit, c'est une formation de droit, en Allemagne. Je ne sais plus dans quelle ville, Hanovre, je crois, enfin, je ne sais plus. Donc dans ce roman, Le Plongeur, qui est le premier que j'ai traduit de lui. Le personnage, enfin il y a un personnage qui se trouve, le personnage du détective, disons, du personnage principal, se trouve entre la Grèce et l'Allemagne. Il vit en Allemagne, mais sa mère est grecque, son père, pardon, est grec, je confonds les deux. Et voilà, dans l'intrigue, à un moment, un vieux monsieur vient le voir, allemand, et puis ensuite disparaît, mais lui laisse un message sur son téléphone. Et ce message est totalement incompréhensible, il ne comprend pas du tout une phrase. C'est une phrase, et en fait, après, on découvre que le vieux monsieur s'est suicidé après avoir laissé ce message. Et c'est une phrase totalement incompréhensible qu'il essaie d'analyser. Et il pense que c'est de l'allemand, mais il l'analyse comme si c'était de l'allemand. Et il identifie certains mots qui éventuellement peuvent avoir du sens en allemand, mais il ne comprend pas l'ensemble de la phrase. Et c'est seulement bien plus tard dans le roman qu'il découvre qu'en fait, cette phrase n'est pas du tout une phrase en allemand, mais c'est une phrase en grec ancien. Parce qu'il va par hasard, il retourne en Grèce, et il va par hasard écouter une pièce d'Eschyle donnée dans le théâtre de la ville où il se trouve, l'Agamemnon d'Eschyle, et tout d'un coup il entend la phrase et il comprend que cette phrase qu'il a entendue et qu'il avait faussement analysée comme de l'allemand, c'est du grec ancien. Hein, Homi, Peplygme, Kerian, Pliyi, Nesso, voilà, du grec ancien. Et alors, à ce moment-là, il est illuminé, parce qu'il comprend le sens du message. Mais alors là, se posait le problème pour moi, comment m'en sortir dans la traduction, puisque donc j'ai un texte en grec moderne, dans lequel intervient tout d'un coup une phrase en grec ancien, qui est d'abord comprise comme de l'allemand, puis ensuite identifiée comme du grec ancien. Donc c'était vraiment très, très compliqué. Et en fait, alors j'avais pensé dans un premier temps essayer de donner une pseudo-transcription en français, mais ça ne marchait pas du tout parce que les mots ne s'y adaptaient pas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, dans la traduction, j'ai repris la fausse transcription allemande, mais en donnant des équivalents français. Enfin, c'était un petit peu bancal, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et ensuite, j'ai donné, évidemment, au moment où il a sa révélation, la phrase en grec ancien, mais pas écrite en alphabet grec, parce que ça aurait été totalement incompréhensible pour le lecteur français, sauf s'il avait été
classique, helléniste.
Voilà. Et donc, une transcription en caractère latin de cette phrase et la traduction en notes. Donc, une solution vraiment bancale, je l'avoue, mais qui me permettait de garder, en tout cas, la fonction dramaturgique de cette phrase, d'expliquer que le détective l'avait d'abord interprété comme de l'allemand avant de comprendre que c'était du grec ancien. Voilà,
les textes de Minos Stathiadis que tu as traduits sont publiés chez Actes Sud en collection Actes Noirs. C'est un éditeur qui ne fait pas trop de difficultés pour les notes de la traductrice, parce qu'il y a des éditeurs qui n'aiment pas ça.
Normalement, quand on traduit un polar, un roman noir, on ne met pas de notes. Ça reste très exceptionnel et j'ai vraiment limité au minimum ces notes. Normalement, il n'y en a pas, mais voilà, une ou deux ce cas-là qui était très, très particulier. Sinon, non, il faut faire confiance au lecteur et il faut trouver une solution de traduction qui rende la chose compréhensible.
Voilà, c'est vrai que la note du traducteur ou de la traductrice, enfin, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est vraiment quand il n'y a absolument aucune autre solution pour faire comprendre quelque chose qui est vraiment important. Et donc, il faut normalement faire sans, se débrouiller sans. Donc, c'est toujours un petit peu un aveu
d'impuissance.
D'impuissance,
oui, c'est un aveu d'impuissance, tout à fait.
Il y a des fois où il faut aussi le reconnaître. Donc, c'est pas... Bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être faire une première pause musicale avec la programmation que tu nous as proposée. Et on va commencer par le titre le plus enjoué ou le plus amusant aussi. Tu m'avais dit que tu trouvais que c'était une sorte d'autodérision plurilingue. Je ne connaissais pas. C'est un titre de Kostis Maravellas qui s'appelle Welcome to Greece. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot ou...
Bon, on va peut-être l'écouter. Voilà. Disons que c'est un chanteur qui a eu un énorme succès en Grèce au début des années 2000, en gros jusqu'à la crise. Mm-hmm. Voilà, cette chanson, en tout cas, date de 2009, donc juste avant la crise qui a frappé la Grèce.
Tiré d'un album qui s'appelle Illégal, c'est ça ?
Illégal, oui, très plurilingue.
Très plurilingue. On écoute Welcome to Greece de Kostis Maravellas.
Solution, se cash holiday. Κομμάτια πας αργά και παρετείς απ' τη δουλειά. Στη μια ουλή μεράκι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά όπως παλιά, ούτε καριέρα ούτε λεφτά. Viens avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι η άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας εδώ αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Oh yeah. Only solution, my baby. Sex and revolution. Why not with me? Love you so much. Te quiero mucho, baby. Dai, non pensarne più, andiamo ovunque vuoi tu. On the line blue fairy, θα δεις τι θα μας φέρει. Φίλι καυτό, τσουρουφλιστό, από το Μάη θα σ' αγαπώ, μετά τον Αύγουστο θα δω. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας έρθω αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day.
Welcome to Greece et welcome back to Radio Campus Tours avec notre invitée Lucile Arnoux-Farnoux. Donc une chanson, effectivement, on l'a vu, joyeuse, bondissante, amusante et effectivement plurilingue. Je ne sais pas combien de langues il y a dans cette chanson. Mais,
oui, il y a du français, de l'italien, de l'anglais et du grec.
Voilà. Ok.
Et de l'espagnol.
D'accord, oui, effectivement, j'avais cru entendre, donc quand même
oui,
avec un
espagnol et qui donc... se moque gentiment, enfin, c'est de l'autodérision, c'est la Grèce du soleil, du sable,
carte postale. Beau,
la Grèce de carte postale, mais en même temps c'est un personnage donc qui dit je vais t'aimer à partir du mois de mai, mais à fin août on verra, donc c'est cette Grèce des plaisirs éphémères, mais en même temps cette Grèce d'une jeunesse qui est un petit peu réduite à ça, puisque le personnage au début dit je me réveille la tête à l'envers, et puis je démissionne de mon travail, et puis voilà, on verra bien demain ce qui se passera. C'est en même temps un petit peu cet horizon bouché de la jeunesse grecque qui, à ce moment-là, quand la crise arrive.
C'est juste avant la crise, ouais, c'est ce que tu dis.
C'est juste avant la crise et va se retrouver sans perspective d'avenir, voilà, sur un ton très, très joyeux.
Alors, sur un ton peut-être moins joyeux, je ne sais pas. En préparant l'émission, je suis tombé sur plusieurs interviews d'un même magazine web que je ne connaissais pas, mais que toi, évidemment, tu connais, parce que c'est l'héléniste de service, c'est toi, c'est Grèce Hebdo. Je suis tombé sur une interview très intéressante d'une autrice que tu as traduite, Rhea Galanaki. Et donc en 2016, en répondant à une question sur le fait que bah, ces romans commençaient à être traduits en français, et il était notamment question d'un roman que tu as traduit, Rhea Galanaki disait ce qui suit, je crois bien que l'œuvre littéraire a une patrie dans la mesure où elle est écrite dans la langue maternelle de l'écrivain. Mais par contre, je ne partage pas l'avis selon laquelle la patrie de l'auteur est sa langue. La patrie d'un auteur est quelque chose de plus large et plus complexe qui émerge à travers sa langue maternelle. Le processus de traduction ne fait que démontrer que la littérature peut dépasser les frontières. Alors, ce que j'avais trouvé un peu ironique, c'est que, et je ne dis pas ça pour enfoncer le couteau des sables ou d'autres choses dans la plaie, mais le nom des traducteurs et traductrices des romans de Rhea Galanaki n'apparaît pas, n'apparaît pas dans cette interview. Alors que dans l'interview, il est question quand même de l'importance de la traduction. Donc ça, c'est mon côté un peu verre d'eau à moitié vide. Alors le verre d'eau à moitié plein, c'est qu'en 2022, Grèce Hebdo a ouvert ses pages, et pas pour la première fois tout de même, à une traductrice, et en l'occurrence à toi. Et je mettrai évidemment toutes les références dans la page web de l'émission. Alors, est-ce que tu penses que ça signifie que ça va dans le bon sens ? C'est-à-dire, en 2016, on ne te cite pas comme traductrice. En 2022, et j'ai essayé de ne pas poser les mêmes questions qui t'ont été posées, puisqu'il y a cette interview. Trouves-tu que les traducteurs, traductrices sont assez mis en valeur ? Ou est-ce que tu trouves même normal que le travail de traduction soit un peu effacé ? Car, après tout, ce n'est pas les traducteurs qui comptent, c'est les auteurs. Enfin, quel est ton sentiment par rapport à ça ? Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ces questions-là. Est-ce qu'on visibilise assez les traducteurs, traductrices ?
Bon, je pense que quand même, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y avait, de manière générale, une invisibilisation des traducteurs. Il y a quand même eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. En grande partie, d'ailleurs, grâce à l'action en particulier de l'association, la TLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a quand même beaucoup œuvré dans ce sens-là, en demandant aux éditeurs, en faisant pression sur les éditeurs pour que le nom des traducteurs figure de préférence sur la couverture, ou sinon, si pas sur la couverture, au moins sur la page de titre, qu'il soit fait référence aux traducteurs. Bon, mais par exemple, si on regarde un site comme Amazon, le nom du traducteur n'est jamais cité, ça c'est sûr.
Alors c'est intéressant parce que justement, j'ai eu cette...
J'ai vérifié à plusieurs reprises. Non,
ça n'est pas donné quand l'éditeur ne l'a pas donné, en fait. C'est ça, Fnac, Amazon,
donc,
etc.
Je n'avais pas poussé l'enquête
et c'est vrai que moi j'ai regardé parce que ça m'est arrivé de ralouiller un peu ou plus qu'un peu sur les réseaux sociaux et j'ai eu cette conversation-là avec
d'accord.
des éditeurs, des
en
auteurs.
Cas,
mais c'est vrai qu'il y a une invisibilisation et même, c'est vrai, on le voit sur les sites des éditeurs.
Sinon, dans l'ensemble, je trouve que les éditeurs ont fait des progrès de ce côté-là. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à me plaindre de ce point de vue-là, puisque aussi bien les deux éditeurs avec qui j'ai principalement travaillé jusqu'à présent, qui sont
Cambourakis
d'un côté et puis Actu-Sud de l'autre, ont toujours mentionné mon nom, donc le nom de la traductrice, soit sur la couverture, soit
quatrième de couverture
sur
aussi.
La page titre. Et quand même, il est de plus en plus question des traducteurs, des traductrices. Il y a des émissions qui leur sont consacrées. On parle quand même de plus en plus du travail des traducteurs.
C'est vrai que les assises de la traduction à Arles,
assises,
par exemple,
voilà,
sont de plus en plus médiatisées.
Peut-être en France particulièrement, d'ailleurs. C'est peut-être... Un pays où le travail du traducteur est particulièrement... Il y a cette revalorisation du travail du traducteur. Il y a des revues...
Il y a des prix
spécialisés.
Quoi qu'on pense des prix littéraires, il y a des prix, prix Laure Bataillon,
exemple. Là, il y a vraiment un effort très grand qui a été fait. Maintenant, que Rhea Galanaki... je comprends, en tant qu'autrice, elle est avant tout elle pense à son œuvre, qu'elle n'ait pas pensé.
Ah non, mais en l'occurrence, là, c'était pas vis-à-vis d'elle. Je veux dire, sur le site web, c'était pas marqué.
Effectivement,
d'habitude, en bas d'interview, ils mettent les références des livres.
Ils mettent une petite note pour rappeler, effectivement, le nom de ses traducteurs. Mais non, dans l'ensemble, et il y a des auteurs aussi qui font toujours très, très attention à rappeler. Le nom de leur traducteur, qui sont très sensibles à cela. Donc non, je crois que dans l'ensemble,
c'était pas une critique ni de Grèce Hebdo et encore moins de l'autrice qui effectivement.
Non, mais je crois que vraiment les choses ont.
Il arrive qu'on oublie aussi.
Continue à changer et que y a un véritable intérêt pour le, et prise en compte pour le, du travail du traducteur.
Et j'incite vraiment les auditeurs, auditrices à aller aussi regarder, écumer un peu les pages de Grèce Hebdo, et pas seulement les pages d'ailleurs littéraires, mais on mettra les, enfin, je mettrai les références de la, des deux interviews et de ton interview.
Il faut un travail très approfondi. J'ai déjà lu souvent des articles très, très intéressants. Ils font vraiment un travail d'enquête, de recherche lorsqu'ils publient des articles.
C'est vrai que c'est très bien, tout à fait. Alors, j'ai une question qui est peut-être une question difficile ou une question piège, puisque tu as traduit, alors je dirais une dizaine de livres, mais j'ai dû en rater. Quelles seraient les trois traductions? Alors, c'est un peu une question à double détente, c'est-à-dire c'est tes trois traductions préférées, ou alors, si on veut dire à nos auditeurs, auditrices, tiens, bah, ça serait bien de commencer par ça, ou il faut vraiment avoir lu ça, qu'est-ce que tu conseillerais comme texte, parmi les textes que tu as traduits, toi, du grec moderne?
Bon, alors, c'est une question difficile, parce que à peu près tous les textes que j'ai traduits, évidemment, m'ont beaucoup intéressé. Je citerai...
On mettra tous les autres aussi.
Je citerai, Belpo Axioti, dont il a déjà été question, parce que c'est une... Belpo Axioti, c'est des gens classiques du XXe siècle, disons, pour la littérature grecque moderne, puisqu'elle commence à écrire son premier texte en 1938, juste avant la guerre, et puis les suivants dans les années 60. C'est vraiment quelqu'un, c'est une romancière que j'admire énormément, d'une très très grande originalité. C'est une, disons, elle se classe à la fois dans les modernistes, hein, dans le sillage des écrivains modernistes européens. Elle a un usage du grec, enfin pas seulement comme langue, mais enfin comme... utilisation littéraire du grec, une originalité dans la composition de ses livres, de ses romans et dans son style qui sont absolument uniques pour moi. Donc c'est vraiment une très très grande écrivaine et j'ai eu un très grand plaisir, je voulais absolument traduire un texte de Melpo Axioti. Bon, il y avait un autre qui m'intéressait beaucoup mais que je n'ai pas pu traduire, mais celui-là donc qui en grec est intitulé To Spiti Mou, ma maison. J'ai modifié le titre, j'ai appelé mon île parce qu'en fait il s'agit donc de l'île de Mykonos qui est l'île natale de Melpo Axioti, et c'est un roman qu'elle écrit en fait quand elle est en exil, parce qu'elle a été très très longtemps en exil politique. Elle était engagée à gauche, elle était communiste, et elle a été obligée de quitter la Grèce pendant la guerre civile pour fuir les poursuites, les représailles. Et elle s'est exilée d'abord en France et puis pendant très longtemps dans les pays de l'Est. Elle a beaucoup souffert de cet exil et donc vers la fin de ces années d'exil, elle écrit ce texte où elle se souvient donc de son île natale, Mykonos, et elle mêle à la fois l'histoire de l'île, l'histoire de sa famille, sa propre histoire. Et c'est donc un texte extrêmement riche qui comporte plusieurs niveaux qui se mêlent dans la narration. C'est un texte très complexe que j'ai eu beaucoup de mal à traduire.
C'est très beau. Moi, je l'ai lu il y a 2 ans.
Donc le texte qui m'a vraiment demandé le plus de travail pour décrypter son écriture, comprendre la logique de sa narration, qui n'est pas toujours évidente, parce qu'elle travaille beaucoup par association d'idées, d'images. Donc, il faut vraiment deviner ce qu'elle veut dire pour recréer la logique du texte en français dans une autre langue. Voilà, mais c'est un texte auquel
je résiste pas au plaisir d'en lire 3 phrases pour faire entendre ta traduction, du coup. À la page 48, alors c'est effectivement un livre que moi j'ai lu il y a 2 ans et vraiment, c'est chez Cambourakis. En plus, c'est dans la collection de poche chez Cambourakis, donc il n'y a même pas d'excuses économiques ou financières à ne pas se le procurer, parce que ça coûte que 10 euros. Donc vraiment, c'est un texte, effectivement, d'une très très grande densité et d'une très grande beauté. « Tant que durait le jour, seules les mouettes volaient sur l'étendue déserte, ainsi que les palombes qui avaient leur nid dans des anfractuosités secrètes. Mais à peine la nuit commençait-elle à tomber que le phare tout à coup s'illuminait. Tous les marins savaient que le phare du Tourlos, d'Arménistis, avait pour tâche de tourner sur lui-même et le gardien de veiller toute la nuit. Depuis des lustres, les gardiens cohabitent avec les oiseaux sur cette langue de terre et une fois seulement, il arriva qu'une de leurs femmes, du nom de Petronella, vienne à la ville et perde son nom. Il suffit que la voie, avec toute sa beauté, un monsieur instruit récemment arrivé comme juge de paix pour qu'il la rebaptise, et là où le pays avait toujours eu une Petronella, il posséda soudain une belle Hélène. J'ai coupé, évidemment, il faudrait continuer à lire, mais voilà, enfin, c'est un texte. Et là, effectivement, j'ai fait entendre une partie d'un des regards sur cette île. C'est parce que c'est un texte qui est très polyphonique aussi. Enfin, c'est une vraie gageure de traduction, je n'en doute pas.
Il y a la voix des habitants, il y a
Il y a un côté très choral.
Il y a des documents anciens, il y a un côté
très choral.
Elle mêle, effectivement, un très grand nombre de voix. Donc, voilà, un texte effectivement très dense, très complexe et très beau. Une écriture qui est aussi très poétique. Alors... Un autre, on parlait de Rhea Galanaki, c'est vrai que je suis attachée, très attachée à ce roman de Rhea Galanaki que j'ai traduit, parce qu'il est très beau, et je dois dire, je l'ai lu.
La vie d'Ismaël Ferik Pacha, également chez Cambourakis, et
oui,
également pas cher.
Réédité, alors il avait été édité d'abord
chez Actes Sud, dans les années 90, je crois.
Repris dans la collection Poche par Cambourakis. Et donc c'est un très très beau roman. C'est le premier roman en fait de Rhea Galanaki qui à l'origine a commencé par la poésie et puis s'est tournée ensuite vers le roman dans les années 80. Très très beau roman. Et en plus, c'est le premier texte que j'ai traduit. C'est le premier
voilà, c'est la question que j'allais te demander. C'est...
Donc ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un roman qui m'avait vraiment frappé quand je l'ai lu. Donc c'est l'histoire, c'est une histoire très dramatique. C'est l'histoire, si je peut-être en donner quelques éléments.
Oui, mais...
Donc c'est Ismaïl Ferik Pacha. En fait, c'est un personnage donc réel, hein, c'est inspiré d'un personnage réel très mal connu, mais qui a effectivement existé, donc qui était à l'origine un Crétois. Et puis, lors des soulèvements en Crète au moment de la guerre d'indépendance, il est enlevé par l'armée égyptienne qui est venue mater ce soulèvement pour le sultan de la Sublime Porte. Et donc, il est jeune garçon, il est emmené en otage en Égypte. Et là, comme il est, c'est un élément brillant, il est récupéré donc par le vice-roi d'Égypte. Il fait ses études et il devient un haut personnage du pays. Il devient un officier supérieur, général. Et il est converti à l'islam. Il a complètement oublié sa patrie d'origine qu'il a quittée depuis très longtemps. Et il est envoyé par le vice-roi d'Égypte pour mater
les rebelles.
Une nouvelle révolte.
Menée par son frère.
Voilà, suscité effectivement, financé par son frère en particulier. Donc il revient sur l'île de Crète. Et il se trouve donc dans un dilemme épouvantable parce que progressivement, donc il retrouve ses racines, la langue grecque, enfin crétoise, il retrouve les traces de sa famille et il est repris par la nostalgie de son pays natal. Et il est pris dans ce dilemme puisqu'il est venu pour écraser cette révolte. Et en même temps, il se sent happé par ses origines. Et il a envie de se perdre donc, dans cette île de Crète. Et voilà, donc le roman et l'histoire de ce dilemme montrent le personnage aux prises avec ce combat intérieur entre deux langues, deux religions. Deux histoires, deux noms, puisqu'il a un nom égyptien, un nom crétois. Donc c'est,
il y avait des éléments de plurilinguisme là aussi, il y avait des éléments de variation, parce que tu dis, tu t'es repris, c'est le grec, le crétois, donc ça veut dire qu'il y a des éléments aussi de... À l'intérieur du grec moderne dans le texte, il y a des, crétismes,
je ne sais pas si on... Non, ça ne joue pas tellement là-dessus, à part dans des appellations, des formes de noms. La romancière ne joue pas beaucoup là-dessus, mais elle joue donc sur ce déchirement intérieur qui est celui du personnage et qui va finir donc par disparaître, en fait. Il ne reviendra jamais de cette expédition. Elle s'attache en fait à l'intériorité. Hein. Ce n'est pas du tout un roman historique classique où serait retracée l'histoire de cette
époque. Quelque chose de très shakespearien. Quelque chose de très shakespearien en fait.
Voilà, la conscience déchirée du personnage. Voilà, donc c'est un très très beau roman qui écrit également dans une langue très poétique. Pas facile à traduire, surtout que c'était ma première.
Pour un baptême du feu, oui.
Voilà, c'était ma première expérience et ce n'était pas la plus simple. Et ça a été une très très belle expérience. J'ai travaillé avec la romancière qui m'a aidée, enfin qui ne possédait pas du tout le français, mais qui m'a aidée autant qu'elle le pouvait.
À saisir les enjeux.
Ce qu'elle pouvait dire, qui était parfois tellement ramassé. Ça pouvait être difficile à percevoir. Donc, ça reste une très, très belle expérience. Puis, je voudrais parler peut-être d'un autre texte, classique, alors cette fois-ci du début du 19e siècle,
je n'ai pas tout lu.
Une autobiographie. D'une jeune femme du tout début du 19e siècle. Et en fait, elle s'appelle Elisabeth Mutsan Martinengu. Elle est considérée comme la première écrivaine grecque de la Grèce moderne. Elle est aussi donc la première femme, la première écrivaine grecque à écrire son autobiographie. Donc elle est née au tout début du 19e siècle et elle meurt en 1832. Elle est morte très jeune et c'était un cas absolument incroyable. Alors son autobiographie est assez connue en Grèce et elle a été rééditée récemment. Enfin, elle est connue des spécialistes de littérature. Donc c'est une jeune femme originaire de l'île de Zante, Zakynthos, grec, donc des îles ioniennes, d'une grande famille aristocratique, mais grande famille patriarcale, et qui a été donc victime de ces principes très rigides de sa famille, donc écartée de toute forme d'éducation, enfermée, cloîtrée chez elle parce qu'elle ne devait pas avoir de contact avec l'extérieur jusqu'au jour où elle se marierait, etc. Et qui, malgré tous ces obstacles, a réussi accéder à l'instruction, avoir toute une éducation, y compris littéraire, dans les langues étrangères. Elle a réussi à apprendre l'italien, un peu le français aussi, le grec ancien. Toute une œuvre. Elle a écrit des pièces de théâtre et elle a raconté son histoire dans une autobiographie. Alors rien de tout ça n'a paru de son vivant, évidemment, puisqu'on considérait que dans ses familles, que les femmes n'avaient pas à être instruites ni à écrire. Mais ces manuscrits ont été gardés et malheureusement ils ont disparu après. Le seul qui est resté, c'est cette fameuse autobiographie où elle raconte son histoire donc depuis son enfance jusqu'au jour de son mariage.
Donc les autres textes ont totalement disparu.
Dans le grand tremblement de terre qui a eu lieu à Zakynthos dans les années 50. Le seul qui a été conservé, c'est son autobiographie, parce que son fils, 50 ans après la mort de sa mère, avait publié cette autobiographie tronquée, un peu caviardée, parce qu'il y avait des choses sur la famille qu'il ne voulait pas rendre publiques.
Un grand classique.
Elle raconte donc cette autobiographie où elle raconte son combat pour accéder au savoir, sa passion du savoir. Son combat pour accéder au savoir et son combat pour ne pas se marier. Parce qu'elle ne voulait pas se marier, elle considérait que le mariage, c'était un esclavage et qu'elle, elle voulait, sa vocation, c'était de s'instruire, de continuer à s'instruire et d'écrire. Et que pour cela, elle ne devait pas se marier. Elle n'a pas réussi à convaincre ses parents, elle était prête à vivre au monastère mm-hmm. pour cela. Elle n'a pas réussi à convaincre ses parents. Elle a été mariée de force, en fait. Et elle est morte à la suite de son premier accouchement. Mais son autobiographie est donc très, très émouvante parce qu'elle témoigne de ce combat pour le savoir et pour imposer sa volonté au nom des grands principes des Lumières, au nom de la raison, au nom du droit faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Donc exercer sa raison et ses talents plutôt que de les gaspiller dans.
Et écoute, tu nous redonneras la référence pour qu'on puisse l'ajouter aussi, parce que celui-ci a échappé à ma vigilance.
Alors, c'était
ma vigilance.
Aussi un texte difficile à traduire, parce que dans un grec du tout début du 19e siècle, en plus des Ilioniennes, un grec assez archaïque,
dialectal un peu.
Qui m'a posé beaucoup de problèmes aussi, mais que j'ai trouvé vraiment très, très émouvant. Je trouve important que ce texte existe en français.
Il est paru chez quel éditeur ?
Chez Cambourakis.
Chez Cambourakis aussi.
Chez Cambourakis.
Ok, mais j'ai mal fait mon travail, mais ça arrive.
Une lecture facile en français, difficile en grec, mais facile en français.
Et merci à la traductrice, merci à la passeuse.
et je suis très très contente d'avoir traduit,
c'est très bien.
Accessible au lecteur français, parce que c'est vraiment un texte très très fort.
Alors on va faire une deuxième pause musicale avant de faire entendre très rapidement un extrait d'une nouvelle en grec et en français. Et l'extrait suivant, alors il y en a un que je ne vais pas pouvoir passer, que je passerai peut-être en générique vite fait, mais on va écouter au moins une partie de Alexandra Living de Leonard Cohen. Et tu as choisi de nous faire écouter ce qui apparemment n'a pas l'air d'être une chanson hellénique ou hellénistique, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est parce que c'est la réécriture d'un poème de Constantin Cavafis. Et donc, c'est tiré d'un album, de l'album 10 New Songs, donc de 2001. Et tu me disais avant l'émission que, en fait, tu t'étais rendu compte en écoutant la chanson, parce que tu aimes beaucoup Leonard Cohen, quand même, ça me dit quelque chose. Et tu as fini, effectivement, par avoir confirmation que c'était bel et bien une réécriture / citation de ce poème de Constantin Cavafis, Antoine abandonné par son Dieu, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et donc il y a toute une intertextualité, puisque c'est aussi repris dans Anthony and Cleopatra, Antoine et Cléopâtre, de Shakespeare. J'ai l'air très savant comme ça, mais je me contente de lire ce que mon invité Lucille Arnoux-Farnoux m'a envoyé par mail hier. Donc on va écouter peut-être un couplet, hein, peut-être pas la totalité, parce que c'est un peu long. Mais bien sûr, là encore, il y a toutes les références dans la page de l'émission.
Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Lost. Even though she sleeps upon your satin.
Alors je ne suis pas très très satisfait de couper la chic, so to speak, à Leonard Cohen. Mais voilà, on va tenir dans l'heure, d'autant que notre invité a cours à 11h30. Et donc, on va quand même... elle aura une bonne excuse si elle arrive en retard. Mais quand même, on va essayer d'éviter. On écoutait Alexandra Leaving de Leonard Cohen. Et nous allons procéder à une petite lecture donc, d'un extrait d'une nouvelle de Minos Efstathiadis, publiée dans un recueil collectif Fragments, Nouvelles et Récits de Grèce. Et le titre de cette nouvelle, c'est Ikirou, qui est le titre d'un film de Kurosawa, comme on va l'entendre d'ailleurs. Alors, histoire de contextualiser rapidement la situation, c'est dans une commune dans laquelle le maire fait la pluie et le beau temps de manière relativement, on peut dire, c'est quelqu'un de corrompu, je pense qu'on peut le dire. Le maire est un grand corrompu qui voudrait transformer un bois en parking, un petit bois en parking. Et il y a un Français énigmatique qui va être au cœur d'une histoire relativement noire dans la nouvelle, qui fait partie des opposants à ce projet de destruction du petit bois. Alors, tu commences par lire peut-être le passage en grec
Alors, je lis un paragraphe.
Et moi, je lirai un passage un petit peu plus long, mais...
Ο δήμαρχος διέβλεψε ευθύς εξ αρχής ότι θα είχε πρόβλημα με τον Μεσιέ. Γι' αυτό ακριβώς αποφάσισε να του αναθέσει τα ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικών των δύο νεαρών γιών του εναντί διπλής αμοιβής από τη θυνησισμένη. Τον κάλεσε μάλιστα στο Δημαρχείο για να του το προτείνει επίσημος. Ο Μεσιέ, ο οποίος ήδη μιλούσε αρκετά καλά ελληνικά και καταλάβαινε πολύ περισσότερα, του απάντησε ότι δεν επρόκειτο να αναλάβει τα βλαστάρια του. Διαπράττοντας το τελευταίο και σοβαρότερο σφάλμα του, ο δήμαρχος του πρότεινε εναλλακτικά μια θέση στον Δήμο, μια ανώτερη θέση συμβούλου στα πολιτιστικά θέματα, μια καρέκλα με κανονικό και καλό μισθό. Πόσο πιο ξεκάθαρα θα μπορούσε να δηλώσει ότι ήθελε να τον εξαγοράσει. Φήμες λένε ότι η φωνή του Μεσιέ ακούστηκε μέχρι το πεζοδρομίο έξω από το Δημαρχείο. «Να βάλεις λεφτά στην κόλο σου», μπερδευόταν ακόμα με το γένος ορισμένων ουσιαστικών.
Quelle métamorphose eut donc lieu à la fin de l'automne? C'est le moment où Messier apprit que le petit bois allait être transformé en parking. Les traits de son visage eux-mêmes furent altérés par l'anxiété, à moins que ce ne fût par sa capacité à prévoir l'avenir. Il se mit à tenir de longs monologues, s'efforçant de changer le cours annoncé des choses. Pour la première fois, j'entendis que la résistance constitue la composante la plus fondamentale de la liberté. Il nous recommanda à plusieurs reprises de voir Ikirou de Kurosawa. Il se révéla rapidement que c'était mission impossible, puisque dans les 3 vidéoclubs de la ville, on nous assura que ces noms n'existaient pas et qu'ils étaient le fruit de l'imagination de ce foutraque de Français. Le maire entrevit dès le début qu'il aurait un problème avec Messier. Donc Messier, c'est le Français. C'est la raison précise pour laquelle il décida de lui demander d'enseigner le français à ses 2 jeunes fils en échange d'une rémunération 2 fois plus élevée que celle en usage. Il l'invita même à la mairie pour donner un tour plus officiel à son offre. Messier, qui parlait déjà assez bien le grec et le comprenait mieux encore, lui répondit qu'il n'était pas question qu'il s'occupe de ses rejetons. S'enfonçant davantage, le maire commit alors l'erreur fatale de lui proposer, à défaut, un emploi municipal, un poste élevé de conseiller pour les affaires culturelles, une bonne place assortie d'un confortable salaire. Pouvait-il manifester plus clairement qu'il voulait l'acheter ? On raconte qu'on entendit la voix de Messier jusque sur le trottoir devant la mairie. « L'argent, tu peux te la mettre dans la cul !» Il ne maîtrisait pas encore tout à fait le genre de certains substantifs. Et évidemment, moi j'ai choisi, alors c'est moi qui ai choisi ce passage, mais je t'ai pas fait violence, je crois, parce qu'évidemment, quand je lis des textes traduits de langues que je ne connais pas, quand je n'ai pas l'original, quand je vois ce genre de choses, je me dis toujours, la traductrice, elle a dû s'amuser. Donc là, il y avait des solécismes, je suppose, il y avait des erreurs de grammaire. que tu as transposé, c'était le même problème, c'était féminin, masculin?
Oui, oui, c'est ça. C'est,
c'était pas trop difficile, du coup, finalement.
C'était oui, c'était assez facile. Donc, à la fois, la tournure n'est pas tout à fait celle... Si un Grec avait voulu dire ça, il ne l'aurait pas dit exactement de la même manière. Et puis, il y avait une faute sur le genre, hein, Stinkolosu, c'est un féminin qui est utilisé, alors que c'est un masculin.
Donc, tu as inversé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, pour dire le cul... Voilà. D'où la cul. Ouais.
Donc voilà, c'était pas trop compliqué. En même temps, il fallait que ça soit un peu vraisemblable.
Oui, et si on prend une minute de plus avant de lancer le générique de fin, ce texte qui est donc une nouvelle de Minos Efstathiadis, il y aura toutes les références sur la page, je sais que je me répète, c'est une nouvelle qu'il a amplifiée en roman, c'est ça, il a écrit un roman à partir de cette histoire-là, et c'est ta traduction, ce sur quoi tu travailles en ce moment.
C'est ça, c'est la traduction que je viens juste, que j'ai terminée il y a quelques temps et que j'ai envoyée à l'éditeur. Le texte n'est pas encore publié. Donc, il a eu le sentiment, c'est ce qu'il m'a expliqué, qu'il n'en avait pas fini avec cet argument, avec l'argument de la nouvelle, avec ce personnage du énigmatique du français qui a assassiné. Qu'il avait éprouvé le besoin d'y revenir. Et en fait, c'est devenu donc son troisième grand roman que j'ai traduit et qui paraîtra. Donc, le titre, sans doute, Les plans du chaos. La préhistoire, en fait, du détective des deux autres romans,
c'est un
prequel. Le plongeur et puis le couteau des sables, ce personnage de détective entre la Grèce et l'Allemagne, ce roman, ce troisième roman écrit à partir du développement de cette nouvelle, raconte son adolescence et comment finalement il devient ce qu'il devient ensuite.
Eh bien, c'est merveilleux et tu pourras revenir pour nous parler de cette traduction quand elle sortira. Ça serait vraiment super. Eh bien, c'est le moment de se quitter. En musique, avec Anna Bouboula, je ne me risquerai pas à dire le grec, ça commence par Tomoro, Moukanei Nani, c'est ça, quelque chose comme ça. Baby Wants Kisses dans la version anglaise, enfin dans la version traduite qui est donnée dans le titre de la chanson. Et donc c'est un groupe new-yorkais qui chante en grec. Merci à toi Lucille Arnoufarnou pour ta participation, on a appris beaucoup de choses avec toi.
Merci Guillaume, c'est un plaisir de participer à cette émission.
Merci beaucoup, et on a appris plein de choses, on en apprendra encore plus la prochaine fois que tu viendras. Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, je rappelle que le compte Insta est là, ILMC 2025. Et on se retrouve encore dans une semaine, les émissions sont rapprochées en ce moment, dites donc, le 24 mars avec Bernard Demeyer, professeur de français, spécialiste des littératures africaines francophones, à l'université de KwaZulu-Natal, actuellement chercheur invité par le laboratoire ICD à l'université de Tours. Bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM.